comme sa loi. Faudra que ton angoisse paraisse se passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Bien, aujourd'hui nous allons aborder plusieurs sujets, comme bien souvent, avec... on va... commencer par un témoignage trouvé sur le site Comme des Fous. Alors, commedesfous.com, hein, un témoignage qui date déjà du 2 août 2023, intitulé « Chambre d'isolement » de Vaillandé Lilaeve. Je ne suis jamais vraiment sorti de chambre d'isolement. Physiquement peut-être, les soignants m'ont détaché les chevilles, les poignets et le front et m'ont déverrouillé la porte. Mais psychologiquement, je suis encore dans cette pièce sans issue. Psychologiquement, me retrouver seul, même dans ma propre maison, c'est me revoir adolescente contrainte par la force à l'immobilité et à l'isolement. C'est sentir le blanc des murs et des sangles engloutir mes possibilités de communiquer avec le monde. Psychologiquement, c'est l'angoisse de ne jamais sortir de mes entraves qui revient chaque jour depuis que mon jeune cerveau l'a malgré lui intériorisé. Je me souviens de la violence et de la solitude et de la violence employées pour l'imposer. Je me souviens de ces mains qui m'ont maintenu au sol, qui m'ont frappé pour m'apaiser, qui m'ont traîné par terre dans les couloirs de la pédopsychiatrie, qui m'ont déshabillé sans mon consentement pour mieux m'attacher à leur lit en plastique. Je me souviens de l'humiliation d'adultes responsables m'observer de la fenêtre de la chambre pour juger de ma disposition à sortir de leurs soins spéciaux. Je me souviens devoir me pisser dessus et supplier qu'on me laisse me nettoyer, parfois sans succès. Je me souviens de toutes sortes d'abus de la psychiatrie, qu'importe l'hôpital, qu'importe l'année, qu'importe les lois mises en place, et je pourrais continuer pour des pages encore si le simple souvenir de ces chambres de torture ne me replongeait pas dans cette angoisse de l'isolement qui ne m'a jamais quitté des années plus tard. J'ai passé mes dernières années à chercher une raison, une justification à ce que j'ai vécu. Je peux dire aujourd'hui et après des recherches minutieuses qu'il n'y a rien qui puisse humainement justifier que l'on contraigne, détruise et traumatise l'enfant que j'étais et l'adulte que je suis. Alors je parle aujourd'hui de l'inhumanité de la mise en chambre d'isolement et j'en parlerai qu'importe le mal que ça me fait encore d'en parler, parce que je ne saurais m'endormir en paix en ignorant que ces sangles et ces murs existent toujours. Je ne pourrais m'endormir en ignorant les cris de la personne enfermée dans la chambre voisine. Voilà, c'est un témoignage de Vaillandé Lilaeve. Bien, on va faire d'abord une petite pause avec... un extrait de La menuiserie de Stupeflip.
d'affinité avec ces porcs qui sont pas de mon bord. J'ai choisi ce son car il est bon comme un bon bourbon. Moi ma rage la fous pas n'importe où, j'en fais des chansons. J'ai pas de crainte, plein de croûte, check un peu ce casse-croûte. Y'a pas de mouton qui broute ou qui s'en foutent sur mon autoroute. Retour en arrière, autant du son qui vrille la tête. 91, 92, 93, le temps des cassettes. Les petits genoux sur YouTube, sûr d'avoir tout pigé. C'était pas là au bout, tant que certains n'étaient pas nés. C'est pas le goût de salsifier, si ça le fait, c'est pas falsifié. Stup, fou des baffes, abrutis causeront défier.
Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Et puis prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Et puis le résultat tranquille dans ma chambre. Maman s'il te plaît ne m'envoie plus à l'hôpital. Je n'en peux plus, je m'y sens mal. Pas l'hôpital, pas l'hôpital. Là-bas les gens sont trop bizarres. Quand je pense à eux je fais des cauchemars. Mentalement je n'ai pas de retard. Maman je ne veux plus les voir. Je te jure que je suis plus fou. C'était avant quand j'étais fou. L'autre fois ils voulaient me taper. Je ne supporte pas l'antibou. Je t'en supplie les appelle pas. Ils vont me sucer le cerveau. Non maman non ne le fais pas. Je serai doux comme un agneau. Ils me donnent des coups de trique. Ils disent que je l'ai mérité. Ils me bourrent de barbiturique alors que je n'avais rien fait. S'il te plaît tu sais bien qu'ils vont m'attacher. Maman, je t'en supplie, je ne veux plus y retourner. Prendre des petits bouts de trucs, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble. Prendre des petits bouts de trucs.
Voilà, c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et maintenant, on va parler d'un truc qui s'appelle la père aidance. Les pères aidants et les pères aidantes. Alors, pour en parler, je vais vous lire un article de 60 millions de consommateurs que nous a, enfin que l'on peut trouver sur le blog de SNG. Et tout de suite après, je vais vous lire le commentaire critique qu'en a fait SNG. Donc de cet article sur la père aidance de 60 millions de consommateurs. C'est un article donc du numéro 589 de mars 2023. Vivre avec la maladie, des patients experts pour vous aider, enquête. Il y a tout un dossier donc dans ce numéro sur alors là ils disent les patients experts. Au CHU Henri Mondeur de Créteil, une association de diabétiques organise des rencontres entre patients experts et malades. Un apport en plein essor que ne boude pas l'hôpital. Ce mercredi après-midi de janvier au 9e étage du CHU Henri Mondeur de Créteil, le couloir du service de diabétologie endocrinologie est désert. L'effet contraste avec le hall de cet hôpital-ville grouillant de patients et de visiteurs. À l'accueil, Marie-Charlotte Druard, infirmière en pratique avancée, IPA, oriente les premiers participants du groupe Élan solidaire de l'Association française des diabétiques d'Île-de-France vers la salle qui leur est réservée. Françoise Lacaze de l'AFD a déjà installé la documentation éditée par la Fédération française des diabétiques. C'est elle qui s'apprête à animer la séance de ce groupe de parole en tant que bénévole patient expert, pour reprendre le terme adopté par sa fédération. Il a ses variantes, patient ressource, patient partenaire, patient aidant ou père aidant, car le terme d'expert en gêne certains. Dans tous les cas, il s'agit de patients qui, après avoir acquis une certaine expertise de leur maladie, en apprenant à la gérer au quotidien, viennent en aide aux personnes atteintes de la même pathologie. Une patiente formée et agréée. Françoise Lacaze vit avec un diabète depuis l'enfance et c'est en partie ce qui justifie son intervention aujourd'hui. Nous, on apporte le vécu, on vient partager les difficultés que l'on a surmontées, notre expérience, nos pratiques, explique-t-elle. Pour cela, elle a été formée et agréée. J'ai suivi une formation organisée par l'Association francophone pour le développement de l'éducation thérapeutique, puis j'ai eu une première expérience au sein d'une maison du diabète à l'issue de laquelle la fédération m'a déclaré bénévole patient expert, poursuit-elle. Il est 16h45. Des patients, Lydia, Serge, Yvette, Michel, ont rejoint Françoise, de même que Claude Chaumeil, vice-président de la FFD et président de la FD Île-de-France, mais aussi Nathalie Moulin, la diététicienne du service. Elle a été conviée pour apporter un éclairage professionnel sur l'alimentation, thème retenu à la séance précédente par le groupe. Elle revient un instant sur sa genèse. Au début, Marie-Charlotte Druard organisait des ateliers sur le vécu du diabète avec une psychologue, et puis elle a proposé de faire intervenir plutôt un patient expert. Et cela a été un succès. Au-delà de l'explication intellectuelle, les malades ont surtout besoin de communiquer entre eux. Sans blouse blanche, ils ne se livrent pas de la même façon. Fin de citation. La séance démarre avec le traditionnel tour de table où chacun se présente. Ce format de rencontre ne tient pas du hasard. Ce sont en effet les groupes de parole des alcooliques anonymes qui ont inspiré le développement des premières organisations de pères aidants à partir du XXe siècle. Organisations qui ont pris tout leur sens à l'apparition du sida, quand patients et médecins co-découvraient la maladie, créant un partenariat nouveau entre eux. Des questions émergent très vite. Ici, tout le monde a bien sûr un diabète. Mais le type, l'ancienneté et les traitements les distinguent. C'est mieux quand les âges et le temps passé avec la maladie diffèrent, les échanges sont plus riches, se réjouit Françoise. Très vite, les questions émergent. Un diabète traité par insuline est-il forcément de type 1 ? Qu'est-ce qu'un diabète de grade 2 ? Un traitement par injection est-il un traitement par insuline ? Même après un certain nombre d'années de diabète, le flou peut régner sur les notions des termes médicaux. Il faut du temps pour les assimiler. Le corps médical n'a pas toujours le temps ou les mots pour les expliquer. Françoise clarifie les réponses, aidée de Claude, mais aussi d'Yvette, qui vient apporter son expérience de 35 ans avec un diabète. Alors que de nouvelles questions fusent, Françoise réoriente le groupe sur le thème du jour en le faisant réagir sur les « on dit » entourant les interdits alimentaires. Les documents éparpillés sur la table, 30 recettes pour votre alimentation, plaisir et santé. Libre et plaisir en toute saison. Masque-t-il des restrictions ? Assise parmi d'autres, la diététicienne écoute les échanges, rassure, précise certains points, répond aux questions. Michel l'interroge sur le jus d'aloe vera que lui a conseillé son naturopathe pour traiter une inflammation. Serge sur la cannelle dont une connaissance lui a vanté les bienfaits. La paire aidance se développe. Au fil de l'atelier, les langues se délient. Lydia, qui y participe pour la première fois, se détend. Le diabète, elle ne l'a pas tout à fait accepté ni apprivoisé, même si cela fait 6 ans qu'on le lui a diagnostiqué. Voir des gens qui ont la même maladie, les mêmes difficultés, lui fait du bien. Oui, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui vivent avec un diabète depuis parfois très longtemps, renchérit Aridja, 27 ans, diagnostiquée en août dernier. Celle qui n'a pu arriver que tardivement à cette réunion n'en rate pas une seule depuis sa première. Voilà que le diabète ne tue pas, voilà comment chacun réussit à gérer la maladie, ça donne de l'assurance. Et puis on est libre de poser des questions, on apprend beaucoup de ces échanges. Personne ne m'avait jamais dit de stocker l'insuline au frigo, par exemple, ajoute-t-elle. Quand on est malade, échanger avec un patient expert, c'est bénéficier d'une écoute par une personne qui a eu la même expérience que vous, qui n'exerce pas de façon d'autorité comme un médecin. De fonction d'autorité comme un médecin. Résume Catherine Tourette, turgiste, psychologue, enseignante, chercheuse et fondatrice en 2009 de l'Université des Patients, Paris-Sorbonne. Il est plus facile d'exprimer ses peurs ou de poser des questions à quelqu'un qui connaît la maladie, entre guillemets, de l'intérieur. Surtout face à une médecine de plus en plus technique et des soignants de moins en moins disponibles. Avec une efficacité aujourd'hui reconnue, la pérédance s'est développée dans le champ de nombreuses maladies longues ou chroniques. Asthme, maladies cardiovasculaires, sclérose en plaques, cancer, mais aussi, et peut-être surtout, et ça n'arrive qu'en fin d'article, je ferme la parenthèse, handicap, maladie mentale et addiction. La présence d'un père qui personnifie l'atteinte d'une certaine qualité de vie malgré la maladie est un levier de motivation. Elle suscite l'espoir de s'en sortir à son tour, montre le champ des possibles. Il est 18h15 et la nuit est tombée sur cet hôpital bloc de 1969. Françoise et Claude invitent les participants à choisir le thème du prochain rendez-vous avant de lever la séance. Moustapha, diagnostiqué il y a à peine un mois d'un diabète de type 1, aimerait bien qu'on lui en explique l'origine. Le groupe opte finalement pour les dispositifs médicaux, pompe à insuline, capteur de glucose, aiguille. Connaître les limites de son expérience. Françoise chuchote à Claude qu'elle préférerait être épaulée par une infirmière. Peut-être justement l'infirmière en pratique avancée du service que tout le monde semble apprécier et appelle par son prénom, Marie-Charlotte. Les patients experts n'ont pas connaissance de tout et les modèles de pompes et de capteurs sont nombreux. C'est aussi ça, être expert aidant, connaître les limites de son expérience et de son savoir. Ce n'est pas un nouveau professionnel de santé venu là pour combler les pénuries, c'est un passeur, un médiateur qui se situe dans un entre-deux entre les soignants et les patients, au service des patients. C'est un article donc d'Émilie Gillet et Adélaïde Robert de mars 2023 du numéro 589 de 60 millions de consommateurs. Vient dans ce dossier sur la pérédance un court article sur les dérives de la pérédance, c'est-à-dire effectivement des gens qui s'autoproclament pérédants et qui vont facturer leurs services, etc. etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est non seulement cet article, mais le commentaire qui en est fait par SNG. SNG qui est elle-même pérédante en psychiatrie, et donc qui connaît bien le sujet. Voici ce qu'elle écrit, elle répond, enfin elle envoie du courrier, le 26 février 2023, à la revue 60 millions de consommateurs. Oui, parce que l'article de 60 millions de consommateurs de mars 2023, c'est le journal a dû sortir fin février 2023. Bon. À la revue 60 millions de consommateurs. Bonjour. Votre dossier sur les pères aidants et aidantes, paru dans le numéro 589 de 60 millions de consommateurs, page 24-27, revue que je consulte mensuellement, m'apparaît sincèrement problématique. D'une part parce que vous ne faites qu'effleurer le statut des pères dans le milieu psychiatrique. D'autre part, parce qu'il s'agit d'un métier reconnu, qui a fait largement ses preuves au Canada, d'où il est né, et qu'encore une fois, vous n'abordez que partiellement l'origine de ces nouveaux corps de métier dans le champ du soin. Il convient de déplorer le fait qu'en usant de l'appellation de père aidant, de père aidante, vous donnez à lire un portrait erroné de ce que recouvre ce terme, cette fonction, à un public, je le crains, méconnaissant le sujet. Les pères aidants ou aidantes, ou MSP, médiateurs de santé, pères, en milieu de soins psychiques, sont, pour la grande part, salariés de l'hôpital contractuel et, pour certains et certaines, passés en CDI. Cette fonction est rendue possible par un dispositif double de formation universitaire financé par l'ARS, lequel nous engage systématiquement et parallèlement sur un poste rémunéré. L'activité des pairs est encadrée et le métier est délimité par des fiches de poste attitrées et une supervision en interne. Ce titre professionnel est obtenu, dans mon cas, et des suites d'une licence universitaire ainsi que basée sur une expérience du milieu me concernant d'une vingtaine d'années. Autant vous dire que l'expertise engrangée n'équivaut en rien à celle de certains et certaines soignants et soignantes fraîchement débarqués en HP ou à celle de coachs de fortune auxquels vous pourriez trop facilement nous assimiler. Votre récent dossier me paraît pour le moins incomplet, en tout cas, en tous les cas, peu juste ou fouillé, d'autant plus dans un contexte où nous nous battons pour une meilleure reconnaissance et visibilité de nos statuts et fonctions au sein des équipes de soins. Vos journalistes ont, à mon sens, rédigé un article qui repose sur une approche très frugale du sujet de la pérédance. Sachez que les articles scientifiques se multiplient sur le sujet, dans le champ de la psychiatrie. Or, vous ne faites sur papier qu'uniquement état des patients experts en abordant que la part de la prise en soins somatique sur le terrain, notamment le diabète. En tant que père aidant et aidante, nous sommes formés à l'université Paris 13 pour l'Île-de-France et diplômés d'une licence de médiateur ou de tutrice de santé père en sciences sanitaires et sociales. Si ce titre ne remplace pas des études de médecine ou d'infirmier, je vous invite à réfléchir 5 minutes à l'impact de votre recherche légère dans la décrédibilisation du métier d'un panel de personnes qui, pour certaines d'entre elles, s'appuient sur une expérience de plusieurs dizaines d'années dans les hôpitaux quant à la façon intelligente, utile aux soignants et à d'autres patients de s'insérer dans le monde du travail avec un parcours et un regard à tel point affiné du milieu sur la maladie et ses comorbidités, les accompagnements alternatifs et outils qu'ils et elles auront su construire pour s'en sortir, se rétablir, tenant compte de très nombreuses failles des systèmes de soins, quand ceux-là ne sont pas inexistants, pour répondre à une demande d'envergure. Une personne sur cinq est concernée par un trouble psychique en France. Je vous invite à réfléchir à la décomposition qui peut se lire sur le visage d'un ou d'une recruteur, recruteuse, perceptible même par un ou une autiste, quand on a 15 ans de trous dans un curriculum vitae ou comment ces profils d'individus là survivent dans la société du fait d'une stigmatisation systémique et d'une appréhension très négative de la maladie du handicap dans un monde régi par la standardisation des corps et des façons de penser, par la performance et le rendement économique de toute activité, sans aborder le fléau que cause une dynamique sociale globale pro-validiste. Je suis la première à dénoncer le charlatanisme médical, le coaching de masse et les établissements privés qui se remplissent les poches sur le dos de consultations bidons. Les réseaux sociaux, notamment, ont fortement ouvert la possibilité à des dérives et manipulations de la part de personnes se revendiquant qualifiées du fait de formations ou d'expériences personnelles qui légitimeraient d'en faire profession. J'ai largement payé les frais de soins douteux, maltraitants de soignants et soignantes, incompétents, incompétentes, irresponsables ou obnubilés par l'épaisseur de leur compte en banque. Dans le privé comme dans le public, il existe partout des personnes malveillantes qui abusent de leur pouvoir et de leur statut. Ces mêmes personnes endossent par ailleurs, hélas, bien plus fréquemment le rôle d'interlocuteur et trice auprès de personnes physiquement, psychiquement vulnérables et ou porteuses de handicap. Il n'en est pas moins que certaines pères aidantes décident de développer une activité indépendante ou collective et non lucrative via le milieu associatif pour proposer une approche plus en alignement avec leurs valeurs et ou leur handicap, pour échapper à la déshumanisation des soins qui perdurent dans les établissements psychiatriques actuellement, pour proposer un accompagnement alternatif et ou une réparation à des patients traumatisés par des passages contraints entre les murs, où on les a parfois privés de leurs droits, humiliés, maltraités. Alors, prière, ne tirez pas aveuglément sur la pérédance sans, et c'est ici remarquable, en rien connaître le réseau français de ces patients et patientes professionnalisés est grand, vous semblez l'ignorer totalement en vous concentrant sur les patients et patientes expertes et ceux et celles qui délivrent de l'ETP, c'est extrêmement réducteur. Alors, ETP, au début je croyais que c'était truc à temps plein, mais non, c'est éducation thérapeutique du patient. Je continue. Vous seriez bien content, contente et rassurée, je peux vous le promettre, le jour où vous tomberez malade, de pouvoir dialoguer de pair à pair avec quelqu'un ou quelqu'une qui a fait déjà le chemin, payé les frais d'errance, de rallongement et d'erreurs de parcours, ayant dû et su faire face à un système d'accompagnement social et médical doué d'hypocrisie et stigmatisant, interlocuteur triste qui sera à même de vous proposer des raccourcis, des outils concrets qui lui auront personnellement permis et permise de s'en sortir, sinon de mieux vivre avec ses troubles. Il demeure important de permettre à l'activité de la paire aidance de se faire connaître et d'être emprunté par des usagers et usagères du soin, des professionnels, des proches aussi. Je vous remercie d'avoir essayé d'en faire état dans une revue que j'apprécie par ailleurs, de consulter. Je me désole toutefois de cet article et espère que vous tiendrez compte de ce courrier afin de revenir sur vos écrits en permettant une appréhension plus juste de ce que nous essayons de faire exister de l'entraide humaine malgré tout. Cordialement, SNG Natacha Guillet. Eh bien, nous n'avons pas d'autre chose à ajouter. Ça peut nous permettre d'enchaîner, un texte assez ancien déjà, 2016, sur la démocratie participative en santé mentale. Alors c'est un article qui est de, donc là c'est sur le site Cairn Info, champ social dans pratique en santé mentale 2016, 72e année, page 37 à 40, et il est de Céline Letailleur. Alors, qui était à l'époque membre de Frontières Invisibles à Rouen en 76, et qui maintenant aussi a créé l'association Affreux, Sales et Méchantes. Donc, Céline Letailleur, facilitatrice scientifique, apprentie chercheuse PAIRE, P-A-I-R-E, elle est intervenue le 13 janvier pour son association Affreux, Sales et Méchantes au CRPA autour des injustices épistémiques et des pratiques de médiation scientifique dans les recherches participatives. Et donc on peut dire deux trois mots sur cette association après avoir lu donc cet article. Cet article qui est intitulé dans le dossier Démocratie sanitaire, la participation des usagers, le titre Un jeu de dupes, contribution à une réflexion sur les pratiques de démocratie participative en santé mentale. Des usagers représentent les usagers. Derrière ce qui tend à devenir aujourd'hui une évidence, l'auteur interroge les enjeux institutionnels et politiques de cette position, loin d'être évidente. Ce représentant, en effet, tient cette place au nom d'une démocratie participative organisée de façon institutionnelle en dehors de lui, et il se doit d'y jouer le rôle du bon élève. Or, c'est aussi par des rapports de force que les politiques évoluent, et le représentant est là aussi non pour représenter le simple fait qu'une parole peut se partager, mais aussi pour revendiquer un réel accès à un partage des rouages du pouvoir et donc des décisions qui engagent l'ensemble de la communauté. Ce texte est dédié à Marianne Constanzo, écrit Céline Letailleur. Cet article tente de questionner l'institutionnalisation des pratiques de participation des associations d'usagers, entre guillemets, associations d'usagers, et la professionnalisation des personnes directement concernées. Un récit d'épreuve sert de base réflexive aux discours et pratiques acceptées et ou rejetées et ou co-construites par les instances de régulation de la, entre guillemets, démocratie participative et les associations d'usagers. Alors, en 2016, il y avait encore toutes ces associations, je ne sais pas si elles existent toutes encore. Advocacy France, Alors oui, Advocacy, oui. Advocacy, France Dépression, FNAPSI, AGAPSI, Croix-Marine, GIA, Schizo, oui, Père Aidant, PrEPSI, Solidarité Réhabilitation, Neptune, Clubhouse, Mad Pride, Fada Pride, Rêve, Réseau d'entente de voix, HumaPsy, Sabrina TCA 92, Toute Voile Dehors, CRPA, Mediagora, ENUSP, WNUSP, Solidarité Usagers Psy, UNGEM. C'est une liste non exhaustive. Il y a une vie associative importante en France autour des personnes en situation de handicap psychique, entre guillemets, et toujours le même discours, les mêmes préconisations, les mêmes principes démocratiques résumés ainsi. Le développement de la participation des usagers n'est envisageable qu'en structurant les associations d'usagers agréées et représentatives. Il est donc nécessaire de définir les conditions d'agrément des associations d'usagers afin de s'assurer de leur réelle représentativité. Pour celles-ci, un financement stable et pérenne sur fonds publics est indispensable afin de permettre leur montée en puissance, ainsi que leur implantation régionale et nationale. La représentation des usagers passe forcément par un regroupement des associations, la « cacophonie associative », entre guillemets, ne pouvant amener qu'à une représentation catégorielle partielle. Il faut alors favoriser l'émergence de fédérations d'associations à même d'assurer dans les instances où elles siègent une représentation de l'ensemble des usagers. Il est également indispensable aux représentants des associations de suivre des formations à la gestion et la représentation auprès des pouvoirs publics. Récit d'épreuve. D'abord, pourquoi moi ? Quels intérêts ? Quelle pertinence ? Quelle légitimité ai-je à écrire un article dans cette revue ? Au nom de qui ? À quelle place ? Quelle posture ? Quel rôle ? J'ai l'impression de ne faire que répéter ce qui a été déjà dit, redit maintes et maintes fois. Qu'est-ce qu'une épreuve quand je deviens une personne directement concernée par les troubles psychiques ? La précarité, la stigmatisation, le rétablissement. Qu'est-ce que j'éprouve quand je deviens représentante des usagers en santé mentale, présidente, entre guillemets, de l'association Frontières Invisibles, association luttant contre la stigmatisation et les discriminations faites aux personnes en situation de handicap psychique, faisant la promotion des pratiques d'autosupport, de pair-support. Quelle voix critique, au sens positif du terme, de remise en question, de volonté de changement, peuvent-elles se faire entendre ? Et à quelles conditions ? La notion de participation des usagers est incontournable, mais en creusant les réalités, ne sous-tend-elle pas un paradoxe, une distorsion entre idéal et réel ? Peu d'usagers connaissent le concept de participation des usagers. Et pourtant, tous les usagers participent plus ou moins formellement, plus ou moins individuellement, plus ou moins collectivement. Impossible de penser la participation sans y rattacher l'intersectorialité, l'empowerment, le rétablissement, la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion, les pratiques communautaires, mais surtout la solidarité, l'engagement. Il semble donc nécessaire, en préambule, de recontextualiser ce qui peut se nommer mouvement et d'expliciter les effets de ce mouvement sur les pratiques, les institutions. De l'obligation de la preuve à la restitution de l'épreuve. Il y a bien un paradoxe à demander aux personnes directement concernées par les troubles psychiques ou la précarité de faire preuve de professionnalisme, sollicitant une forme de discours-posture institutionnalisé, en tout cas partagé par la majorité, tout en cantonnant leur participation à la restitution des preuves. Le raisonnement est lié à la résonance. Une forme d'assignation à la place de « bon élève » de bon usager, tend à étouffer ce qui est de l'ordre de la critique et provoque des quiproquos. Il est insidieusement demandé de jouer un minimum le jeu des institutions. Or, c'est ce qui ne s'ajuste pas qui nous fait avancer. Le mouvement des usagers, entre guillemets, appuyé par certaines lois 2002-2005, permet la mise en place de dispositifs comme les groupes d'entraide mutuelle, les conseils locaux de santé mentale, l'émergence de nombreuses associations d'usagers ou de collectifs citoyens. Les médiateurs de santé pair sont des professionnels s'inscrivant dans le champ du médico-social. Les groupes d'autosupport se développent, réseaux d'entente de voix, groupes parano, Une culture commune est valorisée par les pratiques orientées autour du rétablissement, par la revendication de l'empowerment, du vivre avec. Patricia Deegan, psychologue et personne usagère en santé mentale, porteuse du mouvement « Rien sur nous sans nous », définit le rétablissement. J'utilise le terme rétablissement non seulement en référence au processus par lequel on se remet d'une maladie mentale, mais aussi à celui par lequel on se remet des effets de la pauvreté, d'être un citoyen de seconde zone, de la stigmatisation intériorisée, des mauvais traitements et des traumas subis de ces professionnels qui sont là pour vous aider, et des effets destructeurs pour l'esprit du système de santé mentale. 1996. Donc, se remettre de tout ça, c'est ça le rétablissement. De cette définition découle une question qui semble fondamentale. Comment les critiques sont-elles accueillies? Comment je transforme mes épreuves et partage les idéologies que je défends sans que les professionnels ne se sentent agressés, sans bouleverser un système qui porte lui aussi valeurs et idéologies différentes, parfois de celles portées par les associations d'usagers? Sous couvert de démocratie participative, de participation des usagers, y a-t-il réellement les conditions réunies pour que celle-ci soit efficiente? Ou n'est-on que dans un rapport de force, une forme de mascarade, de jeu de dupe, où personne n'est dupe? Tout se joue entre les contraintes structurelles et la volonté de sortir du déterminisme. Il y a un paradoxe dans l'accompagnement à l'autonomie et une tension forte entre protection et liberté. Comment donnons-nous sens à l'expérience? Comment incluons-nous les capacités d'aspiration, les capacités à s'engager positivement? Comment combinons-nous le possible et le préférable? Comment jouons-nous des cadres d'action contradictoires en démultipliant les dispositifs? Comment acceptons-nous les risques d'irréversibilité des possibles? Un projet de société. Dans Le Partenaire, volume 20, numéro 2, sur la contribution des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale au développement et à l'organisation des services de l'AQRP, Michel Clément écrit « La liberté des usagers à faire valoir leur voix et leur savoir d'expérience dépend de la position que les autres acteurs adoptent à leur égard et des rapports qu'ils nouent avec eux. La catégorie « usager » est un concept socialement et politiquement construit et inséparable de la conception des services publics. Nous revenons encore aux idéologies que soutiennent ce mouvement, ces mouvements. Quel est le projet de société porté par ce mouvement et quels sont les liens qui unissent les usagers entre eux? La participation des utilisateurs des services est imposée comme condition non négociable pour les pratiques organisationnelles des services. Est-elle mise en place? Y a-t-il un budget prévu pour soutenir cette forme de participation? Quelles sont les modalités proposées? Comment passe-t-on de la coproduction à la co-conception? Quel crédit apportons-nous au projet de société porté par le champ associatif de défense des droits et de représentation des usagers, à ce mouvement social, à l'expertise des personnes directement concernées? Il m'a été demandé d'apporter des réponses quant à l'efficience du mouvement usager. Je préfère poser des questions sur ce qu'induit l'institutionnalisation des pratiques normées et imposées, empêchant créativité et réappropriation d'un « nous construit ». Cet article tend à valoriser la coopération, la collaboration, en posant les obstacles et les enjeux repérés et analysés. Obstacles et enjeux pour les usagers impliqués dans les services. Les obstacles rencontrés peuvent être listés ainsi. Stigmatisation, la peur, la réticence des partenaires. Recrutement des usagers. La seule présence d'un usager à un comité ne signifie pas nécessairement sa participation active. Symptomisation. Revendiquer avec passion, c'est l'expression d'un symptôme selon certains services. Alors il y a aussi des termes plus positifs. Inclusion dans le véritable processus décisionnel, informer, échanger, négocier. Reconnaissance de l'expertise apportée par la personne par une rémunération équitable et financement des initiatives des usagers. Accessibilité à la formation sur la participation. Scepticisme. Et là, on a encore du un peu de négatif. Résistance de certains professionnels et gestionnaires quant à la capacité des usagers à s'organiser, à gérer, à se mobiliser, à offrir des services, à se consulter sans la présence de personnes non utilisatrices. Prise de parole et citoyenneté. La parole est là, certains dispositifs sont là, mais où sont la citoyenneté et la revendication des droits ? Quelles sont les actions collectives contestataires des fédérations institutionnalisées, normatives, répondant au cahier des charges des instances de régulation et des instances de régulation de la démocratie participative ? Le but est bien de transformer l'ordre social existant, ce qui nécessite de ne pas être entièrement capté par l'institution et d'entrer dans un rapport de force tout en tentant de trouver des ponts collaboratifs, coopératifs, partenariaux, pour de véritables changements de société, en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes directement concernées et de défendre leurs droits. Les espaces consultatifs ne suffisent pas, ils doivent être décisionnels, dans un rapport égalitaire aux différences à voir. Il ne s'agit plus uniquement d'écouter poliment, mais d'ouvrir réellement les débats, les décisions. Mode de gouvernance, micro-pouvoir et horizontalité. La place des usagers en santé mentale se modifie lentement. Les personnes patients usagers éprouvent des difficultés considérables à passer de la reconnaissance de leurs droits à la reconnaissance de leur citoyenneté. Le discours ambiant de valorisation des personnes directement concernées s'oppose à une culture et à des pratiques anciennes, entre guillemets, difficiles à changer. L'acceptation de l'intervention de l'usager n'est pas simple pour les professionnels. Elle suppose la reconnaissance d'un partage du savoir et du pouvoir. Elle implique une confusion des rôles de chacun, une certaine incertitude, une gouvernance horizontale. Reste à montrer que la réalisation de ces droits est conditionnée par une évolution des représentations et du positionnement institutionnel. Ces regroupements sont animés directement par des patients et non plus par leur famille ou les professionnels. De ce constat découlent de nombreuses questions. Comment sont composées les associations d'usagers en santé mentale ? Leurs adhérents sont-ils perçus comme des personnes guéries, rétablies, stabilisées, malades ? Quelle est la perception de la légitimité de la parole des personnes directement concernées ? Y a-t-il une simple utilisation des associations d'usagers par l'institution et par les pouvoirs publics pour leur fonction d'expertise ou pour leur seule présence de légitimation du discours sur les usagers ? Quelle participation est facilitée, redoutée ? Quelles sont les résistances du côté des personnes directement concernées au principe de leur représentation ou à la façon dont les associations censées les représenter se positionnent ? Comment la démocratie universaliste à la française peut-elle se concilier ou reconcilier avec la diversité des revendications des citoyens en quête de citoyenneté ? Entre tension et compromis, le rien sur nous sans nous, le par et pour ne sont plus des pratiques alternatives, elles sont incontournables. Fin de cet article issu de Pratiques en santé mentale, un article de Céline Le Tailleur, actuellement représentante de l'association Affreux, sales et méchantes. Alors, quelle est cette association ? Statut loi 1901. Cette association a pour vocation de favoriser le développement de recherche participative, recherche action, recherche formation, recherche création, de développer la recherche sur les recherches participatives et la participation effective et reconnue des personnes concernées dans le cadre de ces recherches. Elle a pour objectif de développer des recherches, expérimentations et actions qui permettent une transformation sociale et épistémologique. Elle entend par transformation sociale et épistémologique une démarche en profondeur qui prend en compte les dimensions morales, éthiques, sociales, scientifiques, politiques, économiques et méthodologiques des processus de transformation sociale et épistémologique et qui vise à reconnaître les savoirs et compétences des personnes considérées comme dominées. Elle cherche à travailler en partenariat, cette association, avec différents acteurs et actrices des recherches participatives et à valoriser les postures de médiation artistique, culturelle, sociale, scientifique. Voilà, donc c'est affreux, sale et méchante, tout au pluriel. Voilà. Eh bien, on va faire une pause et après on va finir par quelques annonces. Oui, voilà.
C'est la fille de 100 dollars. Elle est très jolie. Je veux me marier avec elle. Je veux aller au restaurant avec elle. Je ferai n'importe quoi pour elle. 20 euros me fait pleurer avec sa beauté. La copine de 20 euros, c'est 50 euros. Ce sont de très bonnes copines. 100 euros, c'est le grand-père de 20 euros. Il est très gentil. Il fait des cadeaux à sa petite fille, 20 euros. C'est la grand-mère de 20 euros. Elle est très gentille également. Un jour, 20 euros, cette jolie fille fait un très beau cadeau à son grand-père, 100 euros. J'ai demandé à la mère de 20 euros si je peux me marier avec sa fille. Elle m'a dit oui, et c'est le plus beau jour de ma vie. Reflet de lumière, ce joli filigrane qu'elle a. Oui, et oui, je suis tombé amoureux d'elle. 10 euros, la petite sœur de 20 euros est très contente que je me marie avec sa grande sœur. Ce sera magnifique, ce sera formidable, ce sera le plus beau jour de ma vie. Le mariage aura lieu à la Banque de France et le président de la Banque Centrale Européenne sera le prêtre. Je t'aime, 20 euros. Tu es tout pour moi. Tu es le bonheur de ma vie. Tu es mon bien-être, l'amour de ma vie. Tu as quelque chose que les vraies filles n'ont pas. Tu as quelque chose de magique, de sublime. Tu es plus joli, tu es plus séduisant. Ta présence me fait du bien. Je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Reste dans ma vie, ne t'en vas pas. Reste présente à mes côtés. Tu n'as pas de robe, mais le bleu clair est ton plus bel habit. Amoureuse avec un billet de banque, c'est mieux que d'avoir une relation amoureuse avec une vraie fille. Mais si ça marche pas avec 20 euros, j'irais bien me marier avec Siri.
Voilà, c'était Astéréotypie, 20 euros. Toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu et sans maître de la Fédération anarchiste. Après cette musique, je vais donc vous lire un petit un petit article trouvé là aussi sur le site Comme des Fous, un peu pour conclure. La psychiatrie est le degré zéro du soin. Alors c'est un article du 11 juillet 2023, signé Johan, sur commedesfous.com. J'ai une voix dans la tête qui me répète le discours psychiatrique et qui m'empêche de penser par moi-même. C'est une... en exergue, c'est entre guillemets. Bon. C'est quoi le soin ? J'ai longtemps été conditionné, voire colonisé par l'idée selon laquelle le soin serait la relation qui unit une personne souffrante à un professionnel de la santé. Le soin serait manifeste dans la relation soignant-soigné, nom également donné aux réunions insipides qui ont lieu dans les lieux de soins psychiatriques. Les arguments psychiatriques pleuvent dans ma tête. La psychiatrie sauve des vies. Tu ne peux pas vivre sans médicaments, et si tu arrêtes, c'est l'hospitalisation à coup sûr. Oui, la psychiatrie a le monopole du soin psychique. Oui, mes pensées argumentent en faveur du soin alors que je déteste les psychiatres. J'ai mes raisons de les détester. Ils ont failli me tuer deux fois avec leurs injections. Deux fois, j'ai fini en réanimation entre la vie et la mort. 10 fois peut-être j'ai été hospitalisé et mis à l'isolement. Je sais dans ma chair que c'était de la torture de me laisser délirer dans une chambre sans me parler. C'était un abandon thérapeutique. Comme à mon habitude, quand je m'essaie à un texte théorique ou simplement rationnel, me voilà débordé et je finis par témoigner de mon vécu traumatique de la psychiatrie. Certains s'ennuient quelques semaines dans les couloirs des HP, gobent les médicaments et repartent faire leur vie. Moi, je tourne en rond dans ma tête et je m'accroche à la psychiatrie car elle et moi, nous sommes liés à vie. Je suis de ces patients qui ne peuvent pas se passer de médicaments sous peine de perdre le sommeil ou de délirer. Je suis de ceux qu'on force à se soigner et à prendre des médicaments pour éviter le pire, sans les accompagner vers une vie heureuse. La psychiatrie m'entrave tout comme mes difficultés psychiques, mais je distingue quand même en moi une part saine dans mon fonctionnement pathologique. J'entrevois que je pourrais aller mieux si la psychiatrie s'absentait de ma vie. Prescrire des médicaments, c'est béquille pour continuer à avancer et ne pas se foutre en l'air, ou même prescrire des électrochocs en dernier recours, c'est le monopole du soin par la psychiatrie. L'autre soin, c'est prendre soin de ses émotions, pouvoir nouer des relations, communiquer, faire des rencontres, s'émerveiller ensemble et ne pas trembler face à l'inconnu, aussi effrayant soit-il. Le soin, dans sa dimension émancipatrice, sauverait ma vie, car le soin, c'est une utopie concrète que j'entrevois dans les yeux et l'amitié de ceux qui ont prise sur leur destin et qui m'aident à aller mieux. Le degré zéro du soin, ce sont la psychiatrie, les médocs et les électrochocs. Le premier degré du soin, c'est pouvoir dialoguer pour s'émanciper comme individu et collectivement. Le deuxième degré, c'est un degré d'humour face aux limites du soin et à la fatalité. Et à plus de 2 degrés, on sera cuit par le réchauffement climatique avant même d'abolir la psychiatrie. Le soin, s'il n'est pas collectif et émancipateur, c'est de l'oppression. Tout le monde n'a pas besoin de soins pour être bien, mais chacun devrait pouvoir être accompagné dans sa vie à la mesure de ses besoins, sans devoir dépendre d'une ordonnance de médicaments pour aller mieux. Le soin, c'est un processus socialisant, non pas médicalisant. Avec ou sans le soutien des psychothérapeutes, prendre soin les uns des autres ne doit pas être une injonction à aller bien, mais un chemin à prendre collectivement en tant que société. Johan, commedesfous.com, 11 juillet 2023. Et maintenant, je vous propose quelques annonces. Il y a tout d'abord un programme intitulé Contre le Psy. Alors, ça se passe pas à Paris, mais à Nantes. Le 9 et 10 avril 2024, alors le 9 avril de 8h45 à 17h30 et le 10 avril de 9h à 17h15, colloque contrôler la psychiatrie, point d'interrogation, à la faculté de droit et sciences politiques Nantes. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est-à-dire que contrôler la psychiatrie, évidemment, c'est dans un sens juridictionnel. Voilà. Alors, par exemple, mardi 9 avril 2024, à 9h, on commencera par des considérations historiques sur le contrôle en psychiatrie, avec Grégoire Bigot, professeur d'histoire du droit, Nantes Université, laboratoire droit et changement social. Alors, session 1 des contrôles juridictionnels, présidence Éric Péchillon, professeur de droit public, Université Bretagne Sud, Lablex. Alors, à 9h30, l'unification imparfaite des compétences juridictionnelles et les attributions du juge judiciaire, avec Jean-Philippe Vautier, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles, Université de Guyane. À 10h, le juge administratif de la psychiatrie, Nicolas Tronel, magistrat, vice-président du tribunal administratif de Rennes. À 10h30, le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'homme, de Marie Baudel, maîtresse de conférence en droit public, Université Lumière, Lyon 2. Voilà pour le premier jour, la première session. Une autre session, des contrôles non juridictionnels. Présidence Mathieu Bellassen, praticien hospitalier psychiatre. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, acteur auto-invité, point d'interrogation, avec Julia Schmitz, maîtresse de conférence en droit public, Université Toulouse, Capitole, Institut Maurice Auriout. À midi, les commissions départementales des soins psychiatriques, CDSP, acteurs méconnus. Odile Sampeur, une femme, ancienne membre de la CDSP de Loire-Atlantique. Alors, la petite parenthèse, c'est vrai que les commissions départementales des soins psychiatriques ont été assez peu efficaces dans l'observation des pratiques psychiatriques et leur critique, en tout cas, était parfaitement absente. Et les CDSP, ce sont des organismes qui sont censés contrôler administrativement les pratiques en psychiatrie. Bon, alors voilà. Bon, alors je ne vais pas tout vous lire, surtout que l'émission suivante sonne à la porte. Donc je vais, enfin, voilà. Eh bien, nous allons finir avec. Ça se passe le 9 et 10 avril 2024 à la faculté de droit et sciences politiques Nantes, autour de cette faculté et peut-être en d'autres endroits. Ensuite, une annonce radio libertaire, la librairie Publico, conférence débat, 19h-21h, l'intelligence artificielle et son monde, état des lieux et objectifs, quel est ce monde qui vient, quelle place pour la question technique au sein du projet anarchiste, jeudi 4 avril 2024, Patrick Albert. 2023 aura été l'année du moment ChatGPT, révélant au grand public la capacité des machines électroniques à dialoguer à l'écrit comme à l'oral, ainsi qu'à créer des textes de toute nature, des images, des vidéos, de la musique et du code informatique. Ces nouvelles générations d'IA générative s'ajoutent aux IA déployées depuis les années 2000 pour automatiser les décisions de routine. Des cols bleus aux cols blancs, peu de métiers sont à l'abri de cette nouvelle étape de l'industrialisation dorénavant menée par des IA et des robots. Elles ciblent également la substance même de nos vies sociales, privées et intimes. Nous vivons l'aube d'une rupture civilisationnelle et anthropologique qui accompagne le deuxième âge de la machine, où elles acquièrent une puissance intellectuelle qui surprend alors qu'elle n'en est encore qu'à ses balbutiements. Ces avancées ont positionné l'IA au cœur d'une furieuse compétition mondiale militaire, industrielle et économique qui finance une accélération situation dont nous tenterons de comprendre les impacts. Sur ces bases, nous discuterons des questions fondamentales, mais pourtant éludées. Quel est l'objectif? Où cela nous mène-t-il? Et quelle place pour la question technique au sein du projet anarchiste? Patrick Albert a été un des pionniers de l'IA. Au vu du résultat et de ce qui vient, il s'insurge contre l'absence radicale de choix sur le basculement en cours vers la machinisation et l'artificialisation de tout et bientôt des humains. Donc ça se passe à la librairie. La librairie Publico, 145 rue Amelot, 75-011 Paris. Ligne 5, Oberkampf, ou ligne 8, Fille du Calvaire. Donc ça se passe de 19h à 21h le jeudi 4 avril 2024. Ainsi se termine l'entonnoir et nous vous disons à la semaine prochaine.
Soleil.